Chapitre 7. Devoir. Il était une fois, à Chaki, une vieille femme qui tissait merveilleusement. Elle était capable, en un jour, de réaliser un travail qui prenait une semaine à d'autres, et de la plus belle qualité. Jamais un seul de ses points n'était au travers, et le fil qu'elle fabriquait pour ses tapisseries les plus raffinées était si solide qu'on ne pouvait le couper d'un coup de dent, mais seulement à l'aide d'une lame aiguisée. Elle vivait seule, à l'écart, et bien que son ouvrage lui rapportât beaucoup d'argent, dans la plus grande simplicité. Quand elle resta absente pour la deuxième semaine consécutive du marché hebdomadaire, une dame de la noblesse qui attendait un manteau que lui avait promis la tisserande se rendit à cheval jusqu'à sa chaumine pour voir si tout allait bien. La vieille était là, assise à son métier, penchée sur son ouvrage, mais ses mains ne bougeaient pas. Et elle ne réagit pas quand la femme toqua au chambranle. Le valet de la noble dame entra et tapota l'épaule de la tisserande qui avait dû s'endormir. Mais elle tomba à la renverse et resta étendue à ses pieds, plus morte que pierre. Et de son corsage bondit une araignée aux pattes fines, grosses comme le poing, qui grimpa sur le métier en laissant derrière elle un fil épais. C'est ainsi que l'on comprit par quel tour elle obtenait des tissages aussi parfaits. On démembra son cadavre, on le brûla, puis on jeta au feu tous les tissus qu'elle avait fabriqués, et enfin, on incendia sa maison et son métier. Conte du lignage de Tom Blaireau. Je me réveillais avant l'aube avec l'affreuse impression d'avoir oublié quelque chose. Je demeurai un moment sans bouger dans le noir, en m'efforçant de comprendre l'origine de mon malaise. À moitié endormi, je voulais me rappeler ce qui m'avait tiré de mon sommeil, et au travers des lambeaux de ma migraine, j'obligeais les rouages de mon esprit à se remettre en route. Les fils enchevêtrés d'un cauchemar me revinrent peu à peu. Avec effroi, je me souvins d'avoir été un marguet, comme dans les vieilles histoires du vif les plus sinistres, où le vifier se voit progressivement dominé par sa bête jusqu'au jour où il devient métamorphe, condamné à prendre la forme et à obéir pour toujours aux pires instincts de son animal. Dans mon rêve, j'étais un marguet mais sous apparence humaine. Il y avait aussi une femme qui partageait ma conscience avec le félin, tous deux si intimement mêlés que je n'aurais su dire où s'arrêtait l'un et où commençait l'autre. C'était très déconcertant. Le songe m'avait enserré dans ses griffes et maintenu dans un sommeil troublé. Pourtant, une partie de moi-même avait entendu. Quoi ? Des murmures. Le cliquetis étouffé d'un harnais, des bottes et des sabots crissants sur le sable. Je me redressais sur mon séant et balayais l'obscurité du regard. Il ne restait plus du feu qu'une tache rougeâtre au sol. Je n'y voyais pratiquement rien, mais j'avais déjà la certitude que mon prisonnier avait disparu. Il avait réussi à se détacher, et il était en route pour prévenir ses amis que nous les pourchassions. Je secouais la tête pour m'éclaircir les idées. Il avait sans doute pris ma noire. En plus, cette fichue jument était la seule de toutes nos montures assez bête pour se laisser voler sans faire de bruit. « Sire Doré, dis-je, réveillez-vous, notre prisonnier s'est échappé. » J'entendis le fou se redresser à son tour à une longueur de bras de moi, puis se déplacer à quatre pattes dans le noir, et une poignée de petits morceaux de bois atterrit dans le feu. Elle brasilla, puis une minuscule flamme apparut. Son éclat fut bref, mais ce que je constatais pendant ce court instant me laissa confondu. Ce n'était pas seulement notre captif qui avait disparu, mais aussi Laurier et Casque Blanc. « Elle est partie à sa poursuite, » fis-je stupidement. Le fou répondit par une hypothèse beaucoup plus plausible. Ils sont partis ensemble. Seul avec moi, il avait complètement abandonné le ton et les manières de Sire Doré. Dans la lueur mourante du feu, il se rassit sur sa couverture, les genoux repliés sous le menton, les bras autour des jambes, et il secoua la tête. Quel sot je suis! Quand tu t'es endormi, elle a insisté pour prendre le premier tour de garde, en promettant de te réveiller le moment venu. Si je n'avais pas été aussi troublé par ton comportement, je me serais peut-être rendu compte que son attitude était bizarre. Il y avait presque du reproche dans le regard contrit qu'il m'adressa. Elle l'a détaché, Puis ils se sont enfuis discrètement, si discrètement qu'œil de nuit lui-même n'a rien entendu. Il y avait une interrogation, sinon dans son ton, du moins dans la tournure de sa phrase. « Il n'est pas bien, » dis-je, et je me refusais à fournir davantage d'explications. Le loup m'avait-il maintenu exprès assoupi pendant que le garçon et la jeune femme prenaient la poudre d'escampette? Il dormait toujours profondément, d'un sommeil lourd dû à l'épuisement et à sa santé déclinante. Mais pourquoi l'aurait-elle accompagné? Un silence interminable s'ensuivit, puis, comme à contre-cœur, le fou me fit part de sa supposition. Elle croyait peut-être que tu allais le tuer, et elle ne voulait pas qu'on en arrive là.
« Mais je ne l'aurais pas tué !»
répliquai-je avec agacement. « Ah, ma foi, il faut se réjouir, je pense, que l'un de nous au moins en soit convaincu, parce qu'en toute franchise, cette crainte m'avait traversé l'esprit. » Il me jeta un regard perçant dans la pénombre, puis déclara avec une sincérité désarmante. « Tu m'as fait peur hier soir, Fitz. Non, tu m'as terrifié. J'en suis même venu à me demander si je te connaissais vraiment. » Je n'avais nulle envie d'approfondir la question. À ton avis, aurait-il pu se libérer tout seul et emmener Laurier de force? Il se tut un moment, puis accepta le changement de conversation. C'est possible, naturellement, mais très improbable. Laurier n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Elle aurait trouvé le moyen de faire du bruit. En outre, je ne vois pas quelle raison il aurait eu de l'emmener. Il fronça les sourcils. « As-tu eu l'impression qu'il se regardait de façon singulière, comme s'il partageait un secret ?» Avait-il remarqué un détail qui m'avait échappé? Je réfléchis à son hypothèse, puis renonçai. Cela ne nous menait nulle part. À regret, je repoussai ma couverture et murmurai pour éviter de réveiller le loup. « Il faut nous mettre à leur recherche, et tout de suite. » Mes vêtements, mouillés et couverts de boue la veille, étaient à présent raides et collants. Bah, ainsi au moins j'étais déjà habillé. Je me levai, passai ma ceinture d'épée sur mes hanches, et la serrai un cran plus près de ma taille d'autrefois, puis je me figeai, les yeux fixés sur la couverture. « C'est moi qui te l'ai mise, » dit le fou à mi-voix, et il ajouta, « Laisse dormir œil de nuit, au moins jusqu'au point du jour. » Il nous faut de la lumière pour repérer leurs traces. » Il se tut, puis demanda. « Selon toi, nous devons les suivre, mais pourquoi? Tu crois qu'il va se rendre là où on a emmené le prince? Tu penses qu'il y conduirait Laurier ?» Je mordillais un bout de peau au coin de l'ongle de mon pouce. « Je ne sais pas ce que je pense, » avouai-je. Nous restâmes quelque temps perdus dans nos réflexions, puis je pris une profonde inspiration. Il faut chercher le prince. Rien ne doit nous distraire de cet objectif. Retournons là où nous avons quitté sa piste hier et tentons de la retrouver, si la pluie n'a pas tout effacé. C'est le seul chemin dont nous sachions avec certitude qu'il nous mènera jusqu'à Devoir. Si nous n'aboutissons pas, il ne nous restera plus qu'à nous mettre en quête du Pie et de Laurier, en espérant que cette piste-là aussi nous guidera jusqu'au prince. Entendu, fit le fou à mi-voix. Avec un étrange remords, je me sentis soulagé, non tant qu'il fût d'accord avec moi, ni que le Pie se fût mis hors de ma portée, mais surtout qu'en l'absence de la grand-veneuse et du prisonnier, nous puissions cesser de jouer la comédie et redevenir enfin nous-mêmes, tout simplement. « Tu m'as manqué, » murmurai-je, sachant qu'il comprendrait. « Toi aussi. » Sa voix ne me parvint pas de là où je l'attendais. Il se déplaçait dans le noir aussi discrètement et avec autant de grâce qu'un félin. Cette pensée me remit brusquement mon rêve en mémoire, et je m'efforçais d'en retenir les fragments friables. « Je crains que le prince ne soit en danger, » dis-je.
« C'est seulement maintenant que tu arrives à cette conclusion ?»
Je parle d'un danger différent de celui que j'avais envisagé. Je pensais que les viviers l'avaient éloigné par ruse de Ketriken et de la cour, qu'il l'avait corrompu à l'aide d'une Marguette devenue sa compagne de vif afin de pouvoir l'emmener et le rallier à leur camp. Mais cette nuit, j'ai fait un rêve et c'était un véritable cauchemar fou. Le prince n'était plus chez lui dans son propre esprit. La Marguette exerçait une si grande influence sur leurs liens qu'ils ne savaient pratiquement plus qui il était, ni même s'il était humain ou félin.
C'est possible, ça ?
J'aimerais pouvoir te répondre avec certitude. Tout était très bizarre. Il s'agissait bien de sa Marguette, et pourtant ce n'était pas elle. Il y avait une femme que je n'ai pas vue. Quand j'étais le prince, j'étais fou d'elle, et aussi de la Marguette. Je crois que l'animal m'aimait, mais ce n'était pas clair. La femme se trouvait comme entre nous.
Quand tu étais le prince ?
Manifestement, il ne savait comment formuler sa question. L'entrée de la grotte apparaissait peu à peu comme une tache d'obscurité moins profonde que le reste. Le loup dormait toujours. Je tentais d'expliquer au fou ce que je voulais dire. Parfois, la nuit, ce n'est pas complètement l'art ni complètement le vif. Je me demande si, même dans ma magie, je ne suis pas le croisement bâtard de deux lignées fous. C'est peut-être pour ça qu'Artisé me fait tant souffrir. Je n'ai peut-être jamais appris convenablement. Qui sait si Galen n'avait pas raison. Le fou m'interrompit d'un ton ferme. « Parle-moi de ton rêve où tu étais le prince. » Dans mes songes, je suis lui. Quelquefois, je me rappelle ma véritable identité. En d'autres occasions, je deviens lui, totalement. Je sais où il se trouve et à quoi il est occupé. Je partage ses pensées, mais il n'a pas conscience de ma présence, et je ne peux pas lui parler. Enfin, je crois. Je n'ai jamais essayé. C'est une idée qui ne me vient pas quand je rêve. Je deviens lui et je me laisse aller, tout bêtement. Le fou émit un son doux, comme un soupir pensif. L'aube s'était levée à la façon typique des changements de saison. Le ciel était passé en un instant du noir profond au gris perle, et j'avais alors senti que l'été venait de s'achever, que l'orage l'avait noyé, effacé sous ses trombes, et que le temps de l'automne commençait. Il y avait une odeur de feuilles prêtes à tomber, de plantes qui abandonnaient leur verdure pour se retirer dans leurs racines, et même de graines portées par le vent qui cherchaient où se poser et s'enterrer avant de se laisser surprendre par les frimas de l'hiver. Je détournai les yeux de l'entrée. Le fou avait enfilé des vêtements propres et mettait la dernière main à nos paquetages.
« Il ne reste qu'un bout de pain et une pomme, » me dit-il. « Je ne crois pas que la pomme intéresse beaucoup Œil de Nuit. »
Et il me lança le pain. Comme la lumière du jour augmentait, le loup se réveilla enfin. Prenant grand soin de ne penser à rien, il se leva, s'étira précautionneusement, puis alla s'abreuver au petit trou d'eau au fond de la grotte. Quand il revint, il se recoucha près de moi et accepta les petits morceaux de pain que je lui tendais. « Depuis combien de temps sont-ils partis, à ton avis ? » demandai-je.
« Je les ai laissés s'en aller, tu le sais bien. Pourquoi me poser cette question ?»
Je me tus un moment. J'avais changé d'avis. Tu ne l'avais pas senti ? J'avais décidé de ne pas le tuer, ni même de lui faire le moindre mal.
« Changeur, hier soir, tu nous as menés trop près d'un lieu très dangereux. » Nous n'étions ni l'un ni l'autre en mesure de savoir vraiment ce que tu allais faire, et j'ai préféré leur permettre de s'enfuir plutôt que de courir le risque. Ai-je mal choisi ?
Je l'ignorais, et c'était bien le plus effrayant. Le prier de m'aider à suivre le jeune homme et la grand-veneuse, je m'y refusais. Je lui demandais seulement, « Tu penses pouvoir retrouver la piste du prince ?
Je te l'ai promis, non ? Faisons ce que nous avons à faire et rentrons chez nous. »
J'inclinai la tête. Le programme me plaisait. Pendant notre conversation, le fou s'était amusé à lancer la pomme en l'air et à la rattraper au vol. Quand Œil de Nuit eut fini de manger, il saisit le fruit à deux mains et lui imprima une brusque torsion. La pomme s'ouvrit par le milieu et il m'en jeta une moitié. Je secouai la tête en souriant.
« Quand je crois connaître tous tes trucs,
tu t'aperçois de ton erreur, »
dit-il, achevant ma phrase. Il dévora sa part et garda le trognon pour Malta. J'en fis autant pour ma noire. Affamés, les juments abordaient la journée sans enthousiasme. Je lissai un peu leurs robes ébouriffées avant de les sceller puis d'attacher nos fontes sur ma noire. Après quoi, nous prîmes les montures par la bride et nous nous engageâmes dans la pente recouverte d'un mélange glissant de boue et de cailloux. Le loup nous suivit en claudiquant. Comme cela se produit souvent à la suite d'un violent orage, le ciel était d'un bleu limpide. Le soleil chauffait la terre humide, exaltant les odeurs, des oiseaux chantaient, un vol de canards filait vers le sud dans l'éclat du matin. Arrivés au bas de la colline, nous nous mîmes en selle. « Tu arriveras à suivre ?» demandai-je soucieux à œil de nuit. « C'est à espérer, parce que, sans moi, tu n'as pas une chance de trouver la piste du prince. » Les empreintes d'un cheval s'enfonçaient dans le chemin par lequel nous étions arrivés à la colline. Les traces étaient profondes. Casque blanc, chargé de deux cavaliers, allait aussi vite que possible. Où se rendait-il et pourquoi? Mais je chassais la jeune femme et le pis de mes pensées. C'était le prince que nous recherchions. La piste de Casque blanc prit la direction du bosquet où l'archer nous avait attaqué la veille. Nous la suivîmes, et je notai au passage qu'il avait récupéré son arme. Ils étaient donc retournés vers la route. Les empreintes du cheval étaient toujours aussi profondes dans le sol humide. Le jeune homme et Laurier avaient poursuivi leur chemin ensemble. Leurs traces n'étaient pas les seules récentes sous l'arbre. Deux autres cavaliers étaient passés par là. Le premier dans un sens, le second dans l'autre, depuis que la pluie avait cessé. Leurs empreintes apparaissaient par-dessus celles de Casque blanc, ce qui me fit froncer les sourcils. Ce n'étaient pas celles des villageois, qui n'avaient pas pu parvenir si loin, du moins pas encore. Je nourrissais l'espoir que la découverte des cadavres, ajoutée au temps épouvantable, les avait décidés à faire demi-tour. Les marques fraîches arrivaient du nord-ouest, puis y repartaient. Je réfléchis un moment avant que l'évidence ne me frappe. Mais bien sûr, l'archer n'avait pas de monture, et les pies ont envoyé un des leurs chercher leur sentinelle. J'eus un sourire gaillard. « Eh bien, ils nous ont fourni une belle piste bien nette. » Je me tournai vers le fou, mais son visage restait grave. Il ne partageait pas mon exultation. « Qu'y a-t-il ? » Il sourit jaune.
« J'imagine ce que nous éprouverions à présent si tu avais tué ce garçon hier soir, après lui avoir arraché la destination de ses amis par la torture. »
Je n'avais nulle envie d'explorer davantage cette éventualité. Je me tus donc et me penchai pour examiner les traces. Œil de nuit m'accompagnait et le fou nous suivait. Les juments avaient faim et le caractère déjà naturellement rétif de ma noire s'en ressentait. Elle arrachait des feuilles jaunes de saule et des touffes d'herbes sèches dès qu'elle en avait l'occasion. Et je la comprenais trop bien pour la corriger. Si j'avais pu me rassasier de cette manière, j'aurais moi aussi fait ample récolte de feuilles. Comme nous poursuivions notre route, je relevais des signes de la précipitation du cavalier à retourner prévenir ses compagnons que leur sentinelle avait disparu. Les empreintes suivaient un trajet sans subtilité, coupant au plus facile pour gravir une colline, traversant des halliers par la voie la plus commode. Le jour n'était guère avancé quand nous découvrîmes les traces d'un bivouac sous un bouquet de chênes.
« Ils ont dû passer une nuit humide et agitée, » dit le fou, et j'acquiesçais de la tête.
Dans le feu, je trouvais les vestiges calcinés de morceaux de bois, éteints par la chute de pluie et qu'on n'avait pas tenté de rallumer. Une couverture avait laissé sa marque sur le sol détrempé. Celui qui avait couché là avait dû dormir mouillé de la tête aux pieds. Partout, on voyait des marques de sabots. D'autres fidèles du prince Pie avaient-ils attendu là leurs camarades? Les empreintes qui s'éloignaient du camp se chevauchaient, et je ne vis pas l'intérêt de chercher à les débrouiller. Si nous avions continué à suivre la piste après notre rencontre d'hier avec l'archer, nous les aurions rattrapés ici, dis-je d'un ton de regret. J'aurais dû le deviner. S'ils avaient laissé leur homme en sentinelle, c'est qu'ils savaient qu'ils ne s'éloigneraient guère, puisqu'ils n'avaient pas de monture. Ça saute aux yeux. Sacré nom fou, le prince était à notre portée hier.
Alors, aujourd'hui aussi, sans doute. J'aime mieux ça, Fitz. Le destin nous sourit.
Nous sommes tous les deux, libres de nos mouvements, nous pouvons espérer les prendre par surprise. Les sourcils froncés, j'étudiais les empreintes. Je ne vois aucun signe que Laurier et le gamin soient passés par ici. Les pies ont donc envoyé un homme récupérer leur sentinelle, et il est revenu seul pour prévenir ses camarades que l'archer avait disparu. Il est difficile d'estimer quelle aura été leur réaction, mais ils ont visiblement déguerpi en toute hâte sans se préoccuper de sauver leurs compagnons. Il faut donc partir du principe qu'ils seront désormais sur leur garde. Je me tue un instant. Ils ne nous laisseront pas nous emparer du prince sans combattre. Je me mordis la lèvre, puis ajoutai « Et nous ferions bien de supposer que le prince s'opposera à nous, lui aussi. Même dans le cas contraire, il ne nous sera pas d'une grande utilité. Il paraissait complètement perdu cette nuit. » Je secouai la tête pour chasser mes appréhensions. « Alors, quel est notre plan ?» Leur tomber dessus par surprise, frapper fort, prendre ce que nous sommes venus chercher et décamper au grand galop. Ensuite, regagner Castelcerf au plus vite, parce qu'il n'y a que là que nous serons à l'abri. Le fou poussa mon raisonnement jusqu'à une conclusion que j'avais préféré éviter. Manoir est puissante et rapide, tu risques d'être obligé de nous devancer, Malta et moi, une fois que tu auras le prince. N'hésite pas à nous laisser en arrière. Et moi aussi. Le fou jeta un coup d'œil au loup, comme s'il l'avait entendu. Je ne pourrai pas, dis-je d'une voix lente. Ne crains rien, je le protégerai. Mon cœur se serra douloureusement, et je barrai impitoyablement le passage à la question qui m'était venue aussitôt. Et toi, qui te protégeras? Je me fis la promesse que nous n'en arriverions pas là. Je n'abandonnerai ni l'un ni l'autre. J'ai faim, dit le fou. Ce n'était pas une plainte, mais une simple observation. Pourtant, j'aurais préféré qu'il s'en abstînt. Certaines difficultés sont plus aisées à supporter si on l'était. Nous poursuivîmes notre route, guidés par les traces parfaitement visibles dans la terre mouillée. Les fidèles du prince Pi avaient fait la part du feu et continuaient leur chemin sans l'archer, tout comme ils avaient laissé un autre des leurs affronter la mort lorsqu'ils avaient fui le village. Une détermination aussi inflexible prouvait clairement à mes yeux la valeur qu'ils attachaient au prince. Ils seraient prêts à se battre jusqu'à la mort, voire à le tuer pour nous empêcher de nous emparer de lui. Le fait d'ignorer tout ou presque de leur motivation m'obligerait pour ma part à me montrer totalement impitoyable, et je rejetais d'emblée l'idée de tenter d'abord de discuter avec eux. Je recevrais sans doute le même accueil que nous avait réservé l'archer la veille. Je songeais avec nostalgie à une époque où j'aurais envoyé œil de nuit en éclaireur. Aujourd'hui, avec des traces parfaitement nettes à suivre, le loup à bout de souffle nous ralentissait. Je sus précisément à quel moment il s'en rendit compte, car il s'assit brusquement à côté de la piste. Je tirai les rênes et le fou m'imita. « Mon frère, continuez sans moi. Il faut être rapide et agile pour cette chasse. » Tu veux donc que je continue sans mon nez ni mes yeux? Ni ta cervelle, malheureusement. Va, petit frère, et garde tes flatteries, pour qui voudra les croire? Un chat, peut-être. Il se leva, et malgré sa fatigue, il se fondit en quelques pas dans les broussailles avec une aisance trompeuse. Le fou me regarda d'un air interrogateur. Nous poursuivons sans lui, fis-je à mi-voix, et je détournai les yeux de son visage troublé. Je poussai Manoir en avant et nous repartîmes, mais à une allure plus soutenue désormais. À mesure que nous avancions, les traces devenaient de plus en plus fraîches. Au bord d'un rue, nous fîmes halte pour laisser les juments s'abreuver et pour remplir nos outres. Nous trouvâmes aussi des murs, aigres et durs, qui avaient noirci à l'ombre, sans la chaleur directe du soleil pour les sucrer. Nous les dévorâmes néanmoins à pleine poignée, bien contents d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent. Puis, à regret parce qu'il restait encore des fruits sur les ronciers, nous nous remîmes en selle quand les montures eurent suffisamment étanché leur soif et reprîmes notre route. « Je distingue 6 séries d'empreintes, » dit le fou au bout d'un moment. J'acquiesçais. Au moins. Il y avait aussi des traces de marguets près de l'eau, de 2 tailles différentes.
On nous a prévenu qu'un des hommes montait un cheval de bataille. Crois-tu qu'il faille compter avec la présence d'un guerrier parmi eux?
Je haussai les épaules. Il faut s'attendre à tout, à mon avis, y compris à ce que nous ayons affaire à plus de 6 adversaires. Ils se dirigent vers un refuge fou, peut-être un ancien village du lignage ou une place forte d'épi. Et qui sait si on ne nous surveille pas en ce moment même? Je levai les yeux. Je n'avais pas remarqué d'oiseau qui nous prêtait une attention particulière, mais ce n'était pas pour cela qu'il n'y en avait pas. Étant donné le gibier que nous chassions, n'importe quel moineau ou renard pouvait être un espion. Il fallait nous méfier de tout.
« Ça dure depuis combien de temps ?»
demanda le fou, alors que nous chevauchions côte à côte. « Le fait que je partage les rêves du prince ?» Je n'avais pas le courage de feindre de n'avoir pas compris. « Oh, un moment déjà. »
« Avant la nuit où tu l'as vu à Castelmyrth ?»
À contre-cœur, je répondis. « J'avais fait quelques songes insolites auparavant, sans me rendre compte que c'était ceux du prince. »«
Tu ne m'en avais jamais parlé ?»
Tu m'avais seulement dit que tu avais rêvé de Molly, de Burick et d'Ortie. Il s'éclaircit la gorge avant d'ajouter. Mais Imbre m'avait fait part de certains soupçons.
Vraiment?
Mon humeur s'assombrit. L'idée du fou et d'Imbre parlant de moi dans mon dos ne me plaisait guère.
Étais-tu toujours avec le prince et avec lui seul, ou as-tu fait d'autres rêves?
Le fou se donnait du mal pour dissimuler son intérêt, mais je le connaissais depuis trop longtemps.
« En dehors de ce que je t'ai raconté ?»
demandai-je, tout en délibérant rapidement, non si j'allais lui mentir, mais quelle mesure de vérité j'étais prêt à lui révéler. C'était peine perdue de mentir au fou. Il s'en apercevait immanquablement et parvenait toujours à déduire la vérité de mes mensonges. La meilleure tactique consistait à limiter ce qu'il savait, et... je n'éprouvais aucun scrupule à l'utiliser, car c'était le moyen qu'il employait lui-même le plus souvent contre moi.
« Eh bien, j'ai rêvé de toi, tu le sais, et, comme je te l'ai dit, une fois j'ai vu clairement Burick, si clairement que j'ai failli aller lui parler. Je rangerai ses songes dans la même catégorie que ceux du prince. »«
Tu ne rêves jamais de dragon, alors ?»
Je crus comprendre où il voulait en venir. « De vérité, le dragon ?»«
Non. »
Je détournai les yeux de son regard d'ambre perçant. Je n'étais pas encore remis de la disparition de mon roi. Même quand j'ai posé la main sur la pierre qui le renferme, je n'ai rien perçu de lui. Sinon ce bourdonnement de vive dont je t'ai parlé autrefois, comme celui d'une ruche enfouie très loin sous terre. Non, même en rêve, je n'arrive pas à l'atteindre.
« Tu ne fais donc jamais de songe de dragon ? »
fit-il insistant. Je poussai un soupir. Pas davantage que toi, sans doute, ni que tous ceux qui ont vécu cet été d'il y a 15 ans et ont vu les dragons traverser le ciel des 6 duchés. Qui aurait pu assister à ce spectacle sans jamais en rêver ensuite? Et quel bâtard intoxiqué par l'art aurait pu regarder vérité et sculpter son dragon, puis y pénétrer sans rêver de connaître une fin semblable? Se déverser dans la pierre, la prendre pour chair et s'envoler dans l'azur pour s'élever au-dessus du monde. Bien sûr que je rêvais parfois d'être un dragon. J'avais le pressentiment, non, la certitude que, quand la vieillesse me rattraperait, j'entreprendrais un vain trajet qui me ramènerait dans les montagnes, jusqu'à la carrière de pierre noire. À l'instar de vérité, je ne disposerais d'aucun clan pour m'aider à tailler mon dragon. Pourtant, il m'était indifférent de savoir que je courais à l'échec. Je n'imaginais pas d'autre façon de mourir qu'en passant mes derniers instants à tenter de sculpter un dragon. Je laissai ma noire me porter, l'esprit ailleurs, en m'efforçant de ne pas remarquer les regards perplexes que le fou me lançait de temps en temps, si bien que le coup de chance qui m'advint était absolument immérité. Néanmoins, je ne fis pas la fine bouche. Comme nous allions descendre dans une petite vallée, la disposition du terrain me permit d'apercevoir ce que nous poursuivions. Le vallon étroit était tapissé d'un bois coupé en deux par un ruisseau grondant, gonflé par la chute de pluie de la nuit précédente qu'ils étaient en train de traverser. Il aurait fallu qu'ils se retournent et lèvent les yeux pour nous voir. Je tirai les rênes, fis signe au fou de m'imiter et observai en silence le groupe en contrebas. 7 chevaux. Dont un son cavalier, 2 femmes et 3 hommes, dont un sur une monture exceptionnellement grande. Je comptais 3 marguets, soit 1 de plus que prévu, mais pour rendre justice à mes talents de pisteur, il faut signaler que 2 d'entre eux étaient de taille similaire. Ils se tenaient couchés derrière la selle de leur maître, le plus petit du trio, derrière un adolescent aux cheveux sombres, vêtu d'un volumineux manteau bleu de serre, le prince de Voir. La répulsion de sa marguette pour l'eau qu'il franchissait se lisait clairement dans sa posture raide et la position de ses pattes, toutes griffes sorties. Je ne vis le groupe que l'espace d'un instant. Une étrange impression de vertige me saisit, puis les arbres dissimulèrent les hommes de tête. La monture du dernier de la troupe, une femme, sortit en trébuchant du ruisseau caillouteux et gravit la berge argileuse. Comme la cavalière disparaissait dans le sous-bois, je me demandais s'il s'agissait de la dame de cœur du prince. J'ai repéré un gaillard d'aspect solide sur le grand cheval, dit le fou comme à regret. En effet. Et ils se battront à l'unisson. Ces deux-là sont liés.
Comment le sais-tu ? Demanda-t-il avec curiosité.
Je l'ignore, répondis-je franchement. C'est comme quand tu vois un couple de vieux mariés au marché. Tu sais qu'ils sont unis sans avoir besoin d'explication, à la façon dont leurs mouvements se complètent, dont ils s'adressent l'un à l'autre.
Un cheval. Ma foi, voilà qui risque de soulever certaines difficultés que je n'avais pas prévues.
Ce fut mon tour de lui jeter un regard intrigué, mais il détourna les yeux. Nous reprîmes notre poursuite, avec plus de circonspection toutefois. Nous souhaitions les apercevoir sans nous faire repérer. Comme nous n'avions aucune idée de leur destination, nous ne pouvions les devancer pour leur bloquer le passage, malgré les possibilités que nous offrait la contrée sauvage au terrain accidenté que nous traversions.
Le mieux serait peut-être d'attendre qu'ils établissent un camp pour la nuit, puis de nous infiltrer discrètement pour nous emparer du prince, suggéra le fou.
Je vois deux défauts à ton plan, répondis-je. D'abord, d'ici la tombée de la nuit, ils risquent d'avoir atteint le but de leur voyage, et nous les trouverons retranchés dans une place fortifiée ou entourés d'une petite armée. Ensuite, s'ils bivouaquent à nouveau, ils posteront des sentinelles comme les fois précédentes, et il faudra franchir cet obstacle.
Eh bien, que proposes-tu ?
D'attendre qu'ils dressent le camp ce soir. Fis-je d'un ton lugubre. Sauf si une meilleure occasion se présente d'ici là. Un pressentiment funeste grandit en moi à mesure que l'après-midi s'écoulait. Manifestement, Daim et Lièvre n'étaient pas seuls à fréquenter la piste que nous suivions. D'autres humains l'empruntaient, et elle devait donc mener à une ville, un village ou au moins un lieu de rassemblement. Je finis par juger trop périlleux d'attendre le soir et l'installation d'un bivouac. Nous réduisîmes la distance qui nous séparait du groupe plus que nous ne l'avions osé jusque-là, aidés en cela par la géographie de la région. Dès que ceux que nous poursuivions passaient derrière une hauteur, nous en profitions pour nous rapprocher rapidement. À plusieurs reprises, nous dûmes nous écarter du chemin pour rester cachés derrière le sommet d'une crête. Mais les membres de la troupe semblaient certains de se trouver en territoire sûr et regardaient rarement en arrière. J'étudiais leur ordre de marche alors que les arbres les dissimulaient et les révélaient tour à tour. L'homme au grand cheval ouvrait la route, suivi à la queue leu-leu par les deux femmes, dont la seconde tenait la bride de la monture sans cavalier. Notre prince venait en quatrième position, son brumier couché derrière sa selle, puis les deux autres hommes et leur marguet. À leur allure, ils semblaient décidés à couvrir le plus de terrain possible avant la tombée de la nuit.
C'est tout ton portrait quand tu avais son âge, déclara le fou, alors que nous les regardions disparaître dans un tournant du chemin.
Je trouve plutôt qu'il ressemble à vérité, rétorquai-je, et c'était vrai, le garçon avait beaucoup de mon roi. Pourtant, il m'évoquait encore davantage le portrait de mon père. Quant à savoir s'il ressemblait à l'adolescent que j'avais été, cela m'était impossible. Les miroirs ne m'attiraient guère à l'époque. Il avait une tignasse brune, épaisse, et aussi rebelle que celle de vérité et la mienne. Une question traversa mon esprit sans s'y attarder. Mon père avait-il eu du mal, lui aussi, à se passer un peigne dans les cheveux? Ma seule image de lui venait du tableau qui le représentait, et il y apparaissait impeccablement coiffé. Comme lui, le jeune prince avait de longs bras et de longues jambes, bref, une silhouette élancée, à la différence de vérité qui était plus rablée. Peut-être s'étofferait-il en vieillissant. Il se tenait bien dans sa selle, et, comme pour l'homme au cheval de bataille, je sentais parfaitement le lien qui l'unissait à la Marguette installée derrière lui. Devoir chevauchait la tête légèrement rejetée en arrière, comme pour ne jamais perdre de vue l'animal dans son dos. Le félin était le plus petit des trois, mais d'une taille tout de même supérieure à ce que j'avais imaginé. Il avait de longues pattes et une robe fauve où alternaient des rayures claires et sombres. Il se tenait assis sur son coussin, solidement accroché par les griffes, et le sommet de sa tête arrivait à la hauteur de la nuque du prince. Son regard ne cessait de balayer les environs, et sa pose disait clairement qu'il en avait assez de voyager à dos de cheval et qu'il aurait préféré traverser la région par ses propres moyens. Se débarrasser de la Marguette risquait de se révéler la partie la plus délicate de notre opération de sauvetage. Pourtant, je n'envisageais pas un instant de la ramener à Castelserre avec le prince. Pour son propre bien, il faudrait le couper définitivement de sa bête de vif, comme Burick nous avait séparés, Fouineau et moi. Leur attachement n'est pas sain. On ne dirait pas qu'il s'est lié, mais plutôt qu'il s'est laissé capturer, ou peut-être captiver. La Marguette le domine, et pourtant, ce n'est pas elle. Une des femmes est mêlée à l'affaire. Peut-être un mentor comme Rolf le Noir l'a été pour moi. Un maître de vif qui le pousse à s'immerger dans le lien avec une ardeur excessive. Et le prince est si complètement sous le charme qu'il en a perdu tout discernement. C'est ça qui m'inquiète. Je regardais le fou. J'avais exprimé tout haut mes réflexions, sans préambule, mais comme cela se produisait souvent entre nous, son esprit avait suivi la même voie que moi.
Alors, qu'est-ce qui sera le plus facile ? Déloger la Marguette et s'emparer à la fois du prince et de son cheval, ou bien te saisir du prince et l'emporter avec toi sur ma noire.
Je secouai la tête. Je te le dirai quand ce sera terminé. Je rongeai mon frein au cours des heures suivantes, à suivre discrètement le groupe dans l'attente d'une occasion qui pouvait ne jamais se présenter. J'étais fatigué, j'avais faim, et ma migraine de la nuit précédente ne s'était pas tout à fait calmée. J'espérais qu'Œil de Nuit avait réussi à attraper de quoi manger et se reposait. Je mourais d'envie de le contacter, mais je n'osais pas courir le risque que l'épi détecte mon vif. Notre filature nous avait entraînés dans des piémonts accidentés, et nous avions laissé loin derrière nous la plaine en pente douce de la serre. Comme la fin de l'après-midi dépouillait le soleil de son ardeur, je repérais ce qui pouvait bien se révéler notre unique chance. Le groupe que nous suivions se découpait sur une ligne de crête, et son trajet le conduisait à un chemin qui descendait abruptement le long d'un escarpement rocheux. Dressé sur mes étriers, j'observais le sentier dans la lumière décroissante, et j'estimais que les chevaux devraient l'emprunter l'un derrière l'autre. Je fis part de ma découverte au fou. « Il faut les rattraper avant que le prince n'entame la descente, » déclarai-je. Il allait s'en falloir d'un cheveu. Nous avions laissé le groupe prendre de l'avance afin de mieux nous dissimuler. Je talonnais ma noire et elle s'élança vivement, la petite Malta sur ses traces. Certains chevaux ne sont rapides qu'en ligne droite, sur un seul plan. Ma jument se révéla tout aussi capable sur terrain inégal. L'épi avait suivi le trajet le plus facile, le long des crêtes, et une ravine au versant escarpé encombré d'arbres et de broussailles nous séparait d'eux. Nous pouvions nous épargner un long détour en y plongeant pour atteindre directement la piste. Des genoux, j'encourageais ma noire, et elle se rua dans la pente, traversant les buissons sans dévier d'un pouce, franchit à grandes éclaboussures le ruisseau qui coulait au fond de la dépression, puis gravit, non sans mal, le versant opposé dont le terreau moussu s'effritait sous ses sabots. Sans me retourner pour voir comment Malta et le fou se débrouillaient, je restais couché sur l'encolure de ma jument pour éviter les basses branches qui auraient pu me jeter à bas de ma selle. Les pies nous entendirent. Au bruit que nous faisions, ils ne devaient pas s'attendre à voir un seul homme à cheval débouler sur eux, mais un troupeau entier d'élans, ou plutôt une escouade de gardes. Quoi qu'il en fût, ils s'enfuirent, et nous les rattrapâmes de justesse. Les trois de tête s'étaient déjà engagés sur les trois sentiers qui entaillaient l'escarpement. Et la monture tenue en bride venait d'entamer la descente à son tour. Les trois dernières portaient non seulement des cavaliers, mais aussi des marguets. L'homme de queue fit volter la sienne et poussa un cri en me voyant foncer sur lui, tandis que l'avant-dernier s'élançait vers le prince, comme pour l'inciter à s'avancer sur le raidillon. Je percutais celui qui s'était retourné, plus par accident que par volonté stratégique. Le chemin, couvert de gravillons, était traître. Comme Manoir heurtait, épaule contre épaule, la monture de moindre taille de l'homme, le Marguet bondit de son coussin avec un miaulement de menace, atterrit en contrebas de nous et s'écarta des coups de sabot en dérapant dans la pente. J'avais dégainé mon épée. Je talonnais Manoir, et elle poussa sans effort l'autre cheval hors du sentier. Au passage, je plongeais mon arme dans la poitrine d'un des hommes, qui s'efforçait de tirer du fourreau un poignard à la dentelure inquiétante. Il poussa un hurlement, auquel son Marguet fit écho, puis se mit à tomber lentement de sa selle. L'heure n'était pas au regret ni aux scrupules. Le second cavalier se tournait pour nous faire face. Des cris de femmes me provenaient, et un corbeau décrivait des cercles dans le ciel au-dessus de nous, en croissant follement. D'un côté de l'étroit chemin, la colline montait presque à pic, de l'autre, c'était un pierrier en pente raide. L'homme au cheval de bataille rugissait des questions auxquelles nul ne répondait, entrecoupé d'ordres lancés à ses compagnons de remonter et de lui faire place afin qu'il pût se battre. L'espace manquait à sa grande monture pour faire demi-tour, et je l'aperçus en train de reculer sur le raidillon, tandis que les femmes derrière lui, montées sur des chevaux plus petits, s'efforçaient, elles, d'avancer pour s'éloigner des combats. La monture sans cavalier se trouvait entre elle et le prince. L'une d'elles lui cria de se dépêcher à l'instant où l'homme de tête exigeait qu'elle recule toutes les deux et le laisse passer. Son cheval partageait manifestement son idée, et sa croupe massive repoussait son petit congénère derrière lui. À ce jeu de bras de fer, le perdant allait certainement dégringoler dans la pente.
« Prince de voir !»
hurlai-je, alors que Manoir heurtait du poitrail l'arrière-train du cheval devant elle. Comme Devoir se tournait vers moi, le Marguet accroché sur la monture qui se trouvait entre nous poussa un miaulement grondant et donna un coup de griffe en direction de Manoir. À la fois effrayé et insulté, la jument se cabra, et j'évitais de justesse sa tête brusquement rejetée en arrière. Ses sabots retombèrent sur la croupe du cheval sans lui faire grand mal, mais le Marguet, décontenancé, préféra sauter de son coussin. Le cavalier avait pivoté dans sa selle pour nous faire face, mais son épée trop courte ne lui permettait pas de m'atteindre. La monture du prince bloquée s'était arrêtée là où le chemin se rétrécissait en attaquant l'escarpement. Le cheval sans cavalier devant lui s'efforçait de reculer, mais il était impossible au prince de lui laisser le passage. La Marguet de Devoir grondait furieusement, mais elle n'avait aucun adversaire à porter pour laisser libre cours à sa colère. Alors que je la regardais, j'éprouvais une étrange impression de dédoublement de la vision. L'homme au cheval de bataille continuait à tempêter et à ordonner d'un ton rageur qu'on lui cède le passage, alors que ses compagnons étaient incapables de lui obéir. Le cavalier avec qui j'avais engagé le combat parvint à faire effectuer un demi-tour à son cheval, sur l'espace exigu qui menait au chemin en surplomb, mais il faillit piétiner son Marguet. L'animal cracha et tenta de griffer violemment Manoir, qui s'écarta d'un pas dansant. Il paraissait intimidé. Mon cheval et moi étions sans doute beaucoup plus grands que le gibier qu'il chassait normalement. Je profitais de son attitude hésitante pour faire avancer Manoir. Le Marguet battit en retraite entre les sabots de la monture de son compagnon humain. À son tour, le cheval, craignant de blesser la créature qui lui était familière, recula, poussant le prince sur le chemin. Plus loin, sur l'étroite corniche, une monture poussa un soudain hennissement de terreur, auquel fit écho le cri de sa cavalière alors qu'elle s'efforçait de mettre pied à terre pour éviter de tomber du chemin, écartée par le cheval de bataille qui continuait à reculer avec résolution. La jeune femme chut sur le sentier, se dégagea frénétiquement des étriers et se redressa tant bien que mal pour se plaquer contre la paroi rocheuse. Sa monture affolée essaya de reprendre son équilibre, puis perdit pied et se mit à glisser le long de la pente, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, battant des quatre fers pour freiner sa chute et ne réussissant qu'à déstabiliser davantage le pierrier qui roulait avec elle. De jeunes arbres maigrelets, qui avaient trouvé à s'installer sur de rares poches de terre et dans des fissures de rochers, cassaient net sous sa masse, jusqu'au moment où elle poussa un hennissement horrible. Elle venait de s'embrocher sur un baliveau plus solide que les autres. Sa chute s'arrêta brièvement avant que ses ruades spasmodiques ne la libèrent et qu'elle ne continue à dévaler le pierrier. D'autres bruits s'élevèrent derrière moi. Je compris sans avoir à me retourner que le fou m'avait rejoint, et que Malta et lui occupaient l'autre Marguet, dont le compagnon se trouvait sans doute toujours à terre. Mon épée s'était profondément enfoncée dans sa poitrine. Je me sentis tout à coup impitoyable, prêt à tout pour remplir ma mission. Mon adversaire était hors d'atteinte de mon arme, mais son marguet felon qui menaçait ma noire était à ma portée. Je me penchai et lui portai un coup de taille. L'animal fit un bond de côté, mais j'avais tracé une longue estafilade sur son flanc, et j'en fus récompensé par des cris de colère et de douleur de sa part et de celle de son compagnon humain. L'homme chancela sous le choc, et je fis l'étrange expérience de percevoir un instant par le vif les malédictions qu'il me lançait. Je leur fermais mon esprit, talonnais ma noire et me plaçais côte à côte avec mon adversaire, monture contre monture. Je lui envoyai un coup de pointe et, en voulant esquiver ma lame, il vida ses étriers. Son cavalier, terrorisé, son cheval ne fut que trop heureux de s'enfuir quand ma noire lui laissa le passage. Au même instant, la monture du prince, cherchant à s'éloigner du remue-ménage qui régnait devant elle, recula jusque sur le petit espace dégagé qui donnait sur le sentier à flanc de versant. Sur sa croupe, la marguette du prince, tous les poils hérissés, me fit face avec un grondement furieux, et je perçus chez elle une anomalie, une difformité qui m'effraya. Alors que je m'efforçais de déterminer ce qui n'allait pas chez elle, le prince fit pivoter son cheval, et je me trouvai nez à nez avec Devoir. J'ai entendu des gens décrire des instants de leur vie où le temps paraissait s'être arrêté. Comme j'aurais aimé qu'il en fût de même pour moi. Je faisais face tout à coup à un jeune homme qui jusque-là n'avait guère représenté pour moi qu'un nom associé à une vague idée. C'était mon portrait vivant, à tel point que je reconnus le petit pli sous le menton où les poils poussaient de travers et où il aurait plus tard du mal à se raser. Il avait ma forme de mâchoire et le nez que j'avais adolescent avant que Royal ne me le casse. Comme les miennes, ses dents étaient dénudées par le rictus du combat. L'âme de vérité avait planté la semence dans sa jeune épouse pour concevoir cet enfant, mais c'était ma chair qui avait façonné sa chair. J'avais devant moi le fils que je n'avais jamais vu ni reconnu, et un lien se forma avec la brutalité de fer qui se referme sur des poignets. Toutefois, si le temps s'était vraiment arrêté pour moi, j'aurais pu me préparer au grand coup d'épée qu'il me porta. Mais mon fils n'avait pas partagé avec moi cet instant de stupeur où je m'étais vu comme en un miroir, obscurément. Devoir m'attaqua avec la violence d'un démon, et son cri de guerre était le miaulement ululant d'un chat en fureur. Je faillis tomber à bas de ma selle en me penchant en arrière pour éviter sa lame, qui entailla tout de même ma chemise et me laissa une ligne cuisante sur la poitrine. Comme je me redressais, sa marguette se jeta sur moi avec un hurlement de femme. Je me tournai et bloquai son seau à mi-course du coude et du bras, et poussai un cri d'horreur en sentant ses griffes s'enfoncer dans mon muscle. Sans lui laisser le temps de s'accrocher trop fermement à moi, je pivotai violemment et la projetai au visage de l'homme que j'avais fait choir de cheval. Elle le heurta avec un miaulement strident, et ils roulèrent ensemble au sol. L'homme tomba sur elle, et elle émit un bref hurlement avant de s'extirper de sa masse à coups de griffes et de repartir à la charge en claudiquant. Mais elle dut battre en retraite devant les sabots de manoir qui martelaient le sol. Le prince suivit sa marguette des yeux avec une expression d'épouvante. C'était l'ouverture que j'espérais, et je fis sauter son épée de sa main. Il s'était attendu à ce que je ferraille avec lui, non que je m'empare de ses rênes et maîtrise son cheval. J'enfonçai les genoux dans les flancs de ma jument, et aux merveilles, elle m'obéit. Elle volta, je la talonnai, et elle s'élança au galop. La monture du prince suivit le mouvement sans se faire prier, pressée de s'éloigner de la fureur des combats. Je crois me rappeler avoir crié au fou de fuir lui aussi. Par un moyen qui m'échappa, il semblait tenir en respect le pie au visage couvert de griffures. L'homme au cheval de bataille rugissait qu'on enlevait le prince, mais la masse désorganisée d'humains, de montures et de marguets était incapable de réagir. L'épée toujours à la main, je pris la clé des champs sans avoir le temps de vérifier que le fou en faisait autant. Ma noire imposa un train qui obligeait l'autre cheval à galoper l'encolure tendue. La monture du prince ne pouvait pas soutenir l'allure de ma jument au grand galop, mais je la forçais à courir aux limites de ses capacités. Je quittai la piste et entraînai Devoir à tombeau ouvert dans la descente d'un versant abrupt. Puis, toujours tout droit, giflé par les buissons, nous franchîmes à toute allure plusieurs collines et nous engageâmes sans ralentir sur un terrain où un cavalier sain d'esprit aurait mis pied à terre et mené son cheval par la bride. Si Devoir avait sauté de sa selle, il se serait à coup sûr rompu le cou. Mon seul plan consistait à mettre le plus de distance possible entre ses compagnons et nous. Quand je pris enfin le temps de jeter un regard derrière moi, je vis Devoir qui s'accrochait avec détermination à son pommeau, les lèvres figées en un rictus menaçant et le regard distant. Quelque part, je le sentais, une marguette en fureur nous pourchassait. Comme nous dévalions une pente escarpée, dans une succession de bonds et de glissades, j'entendis des bruits de branches violemment rompues dans les buissons derrière nous, puis un cri d'encouragement, et je reconnus la voix du fou qui pressait Malta d'accélérer encore. Mon cœur bondit de soulagement. Il avait réussi à nous suivre. Au bas du versant, je tirai les rênes de ma noire. Le cheval du prince était déjà couvert d'écume, et la bave dégoulinait de son mort. Le fou s'arrêta derrière lui. « Vous êtes en un seul morceau tous les deux ?» demandai-je.
« On dirait, » répondit-il.
Il rajusta le col de sa chemise et le boutonna à la gorge.
« Et le prince ?»
Nous nous tournâmes vers Devoir. Je m'attendais à lui voir une expression de colère et de défi, mais non. Il vacillait dans sa selle, les yeux vagues. Il nous regarda tour à tour, puis il me dévisagea, d'un œil embrumé, et son front se plissa, comme s'il se trouvait devant une énigme.
« Mon prince !»
fit le fou d'un ton inquiet, qui était redevenu celui du seigneur doré.
« Allez-vous bien ?»
L'espace d'un instant, le garçon resta sans répondre, l'air hébété, puis son visage s'anima, et il s'écria brusquement.
« Je dois rejoindre les autres !»
Il voulut dégager son pied de l'étrier, mais je donnai un coup de talon à ma noire, et nous repartîmes à toute allure. J'entendis Devoir pousser un cri de désespoir et me retournai. Accroché au pommeau de sa selle, il faisait des efforts frénétiques pour retrouver son assiette. Nous poursuivîmes notre fuite, le fou derrière nous.